Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On l'a longtemps sous-estimé, moqué pour son allure balourde, avant d'admettre qu'en 3 mandats et 10 ans de pouvoir à Berlin, Angela Merkel est de fait le seul homme fort de l'Europe. Et les risques sont évidemment à sa hauteur. Il y a un an, elle était considérée comme la matrone impérieuse, championne de l'austérité qui mettait la Grèce à genoux. Puis l'été dernier, la conscience morale de l'Europe, la seule de nos dirigeants, à comprendre le malheur de ces centaines de milliers de réfugiés fuyant les guerres et la misère, leur ouvrant tout grand les bras de l'Allemagne. Et voilà qu'à la veille de 3 élections locales emblématiques, en Allemagne donc demain, on se rend compte que la fille du pasteur reste d'abord et avant tout une femme politique, rompue à la tactique et au changement de pied. La pression migratoire fait craquer le consensus social et politique allemand, comme elle démontre la solitude de l'Allemagne, l'effacement du partenaire français et le délabrement du projet européen. Ce sont toutes ces questions que nous allons explorer grâce à vous. Daniela Schwarzer, bonjour. Vous êtes à Berlin, directrice du programme Europe du German Marshall Fund. À Berlin aussi, par téléphone, et je le remercie, Claire Demesmet, responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère. À Paris, Hans Stark, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemande à l'IFRI, et à Strasbourg, Stéphane Seidendorf, directeur des études européennes à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Daniela Schwarzer, expliquez-nous d'entrée l'enjeu politique de ces 3 Länder qui doivent voter demain, 2 à l'ouest de l'Allemagne et 1 à l'est.
Bonjour Christine. Oui, alors ce sont certes des élections très attendues, 3 élections régionales, 2 dans des régions assez importantes, donc le Baden-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne de l'Ouest. Et c'est là où on va voir si ces élections auront des indications pour les élections nationales en 2017. Parce que jusqu'ici, et ce sera le parti qui sera le plus observé, un nouveau parti qui s'appelle AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, n'est pas du tout présent dans un parlement régional de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc la grande question demain sera si ce nouveau parti pourra rentrer dans 2 parlements en Allemagne de l'Ouest, donc le Baden-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat.
Donc ce nouveau parti, pardon Daniela, je vous interromps, donc l'AfD a été créé à l'origine par quelques professeurs que l'on considérait comme grognons et plutôt anti-européen, mais c'est devenu un parti qui s'est beaucoup droitisé avec la question des réfugiés.
Oui, alors le parti fut créé à la hauteur de la crise dans la zone euro, surtout sur la question si on devrait maintenir l'euro dans sa composition actuelle. Donc, si vous voulez, c'était un parti qui a très tôt dit que la Grèce devrait peut-être sortir de la zone euro. Et ce parti a complètement changé de thème. En fait, les questions de l'euro sont vraiment plus présentes. C'est la question de l'immigration, la question de l'islam en Allemagne, et donc les questions religieuses, les questions d'identité nationale ont gagné de l'importance pour ce parti.
Alors on comprend que demain il s'agit d'un test grandeur nature, bien évidemment, pour la chancelière, mais quand on regarde les sondages d'opinion, et surtout quand on les regarde depuis la France, on voit qu'elle a encore 54% d'opinion favorable, ce qui fait absolument rêver tout dirigeant politique français. Donc jusqu'à quel point est-elle véritablement menacée, comme on peut le lire ici ou là?
Oui, je pense que les articles dans la presse exagèrent souvent la question si elle est vraiment menacée dans sa position à la fois en tant que chancelière et aussi en tant que tête du parti des conservateurs, CDU. Il faut bien comprendre, elle a commencé ses mandats avec un taux de soutien qui était vraiment extraordinaire. Donc là, elle a perdu elle a perdu d'une façon assez importante, mais vous l'avez cité, elle a toujours un score qui à la fois, si on compare à l'échelle européenne ou bien dans une perspective historique en Allemagne, elle a toujours un taux de soutien qui est extraordinaire. Mmh, et donc, pour lier cette question, son soutien personnel et les élections demain, il faut bien comprendre que le AfD, donc un parti populiste de droite, ne prend pas uniquement des électeurs, des conservateurs, mais plutôt des deux grands partis politiques, c'est-à-dire le SPD, les sociodémocrates, et la CDU sont en même temps menacés par cette partie. Et donc, ce n'est pas exclusivement un vote contre Angela Merkel si l'AfD gagne, mais surtout un mécontentement avec les grands partis politiques en général.
Claire de Mesmer, expliquez-nous, donnez-nous une échelle de grandeur quant à la pression des réfugiés en Allemagne. Parce que on sait que le pays a accueilli plus d'un million de réfugiés, disons politiques, c'est-à-dire fuyant les guerres, et aussi de migrants économiques venus d'ailleurs aussi du sud-est de l'Europe. Mais donnez-nous une échelle de grandeur, parce qu'en France surtout, on ne s'en rend pas compte, on en prend tellement peu en France.
Oui, vous avez tout à fait raison. La crise des réfugiés, c'est un sujet omniprésent dans la politique de l'Allemagne, mais aussi dans la société allemande. Les réfugiés, ils sont partout. Ils sont partout dans le discours, ils sont partout dans la perception, dans les rues évidemment aussi. Mais vous avez une société allemande qui s'est mobilisée en grande partie pour l'accueil des réfugiés. Vous avez énormément de bénévoles, de personnes qui ne sont pas particulièrement politisées, qui n'ont pas pour l'instant travaillé particulièrement dans ce domaine-là, qui accueillent des réfugiés, qui les hébergent chez eux, dans leur maison, dans leur appartement, qui leur donnent des cours d'allemand. Donc on a toute une mobilisation. Pour moi, c'est un mouvement, la crise des réfugiés ou la gestion de la crise des réfugiés allemande est une gestion par le bas. On voit qu'elle repose sur le micromanagement. On parle beaucoup dans d'autres pays, notamment en France, de la politique de Merkel, de la crise des réfugiés. Elle n'aurait pas été possible, cette politique, sans ce soutien, sans cette mobilisation de la population. Et pas seulement de la société civile organisée.
Mais en même temps, Claire, pardon, je vous interromps, on sait qu'il y a des manifestations racistes, il y a eu beaucoup de violences, surtout à l'est de l'Allemagne, et une poussée xénophobe extrêmement forte.
Tout à fait, exactement. Et l'un n'exclut pas l'autre. Donc on a eu ce mouvement de société très important, mais ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la population allemande qui a réagi de façon favorable à l'accueil des réfugiés. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a eu aussi un mouvement contraire, une contre-réaction qui s'est traduite par des violences vis-à-vis de camps d'accueil, de centres d'accueil des réfugiés, par un discours raciste plus virulent et par le succès d'un parti comme l'Alternative pour l'Allemagne, l'Alternative für Deutschland, dont on vient de parler. Donc ce sont les deux choses qui sont nouvelles.
Avec évidemment le tournant de Cologne, enfin les violences sexuelles du 31 décembre dernier. Oui. Allons à Strasbourg pour vous retrouver, Stéphane Seidendorf. Je rappelle que vous dirigez les études européennes à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Cette montée des extrêmes, ou en tout cas d'un extrême à droite avec l'AfD, est-ce qu'il y a une explication structurelle dans le système politique allemand ?
Oui, vous avez déjà évoqué les facteurs conjoncturels, la crise des réfugiés, mais à côté, on peut se poser la question, et je pense on peut avancer l'argument que le facteur structurel derrière, c'est cette grande coalition à Berlin. Vous savez, dans le système parlementaire allemand, actuellement, on a les deux grands partis, le centre-gauche et le centre-droite, qui sont ensemble au pouvoir, et ça a déjà existé dans le passé, dans les années 60, avec Willy Brandt et Kissinger. Et à chaque fois qu'on observe cette constellation, ça renforce les extrêmes. L'explication, elle est assez simple. Derrière, c'est que l'offre politique au centre, au milieu, les alternatives, ils se réduisent. Les deux partis au pouvoir, ils ont du mal à s'opposer pendant qu'ils sont liés par la coalition au gouvernement. Les libéraux, le FDP, il a été viré du Parlement lors des dernières élections. Il reste les Verts comme opposition qui seraient prêtes à prendre des responsabilités au niveau du gouvernement. Et la gauche, c'est-à-dire les anciens communistes, qui pour l'instant ne se voient pas vraiment prendre des responsabilités gouvernementales au niveau fédéral. Donc, l'offre politique, elle se réduit et les gens, ils cherchent. Et ce qui est assez étonnant et frappant, c'est que cette AFD que vous avez mentionné, il était fondé par des professeurs partis un peu de retraités, un peu ranchons à l'Ouest, a aujourd'hui le soutien des jeunes un peu déboussolés à l'Est. Si on regarde les chiffres pour l'Allemagne de l'Est, les intentions de vote, le AfD est le premier parti. Les jeunes de 18 à 30, 35 ans, ils votent pour ce parti qui correspond au fait assez bien à leur état d'esprit, puisqu'ils sont déboussolés, il leur manque un peu d'orientation et cette AFD, elle est justement surtout contre tout, un parti protestataire. Pour le moment, le programme n'est pas bien clair et c'est quelque chose qu'on a déjà pu observer dans le passé lors de ces constellations de grandes coalitions, comme on l'appelle en Allemagne.
Alors, il y a précisément un Land à l'Est, le Saxe-Anhalt, qui est l'un des plus, comment dire, l'un des plus défavorisés hein, depuis la réunification, qui, il faut le rappeler, remonte maintenant à 25 ans, mais on sent bien que ce clivage entre l'Est et l'Ouest perdure en Allemagne.
Oui, il faut surtout pas oublier, on a tendance à l'oublier en Allemagne, et surtout au reste de l'Europe, que l'Allemagne, elle est aussi parmi ces pays de transformation, ces sociétés de transformation de l'Europe de l'Est. Évidemment, pas toute l'Allemagne. Et quand on parle Allemagne, souvent on a tendance à oublier cette partie de l'Est qui a rejoint l'Allemagne fédérale à l'Ouest en 1990. Mais les clivages dans les sociétés, ils sont assez forts. Et ça explique un peu ce qui a évoqué Claire Demesmé tout à l'heure, cette situation que d'un côté, on constate des actes terroristes d'extrême droite, xénophobes, racistes, et de l'autre côté, on a cet élan, apparemment un paradoxe, de soutenir, d'accueillir chez soi, dans son appartement, dans sa maison, des réfugiés. Donc, c'est une société actuellement exposée à beaucoup de tensions, qui héberge dans son sein beaucoup de tensions et qui est tout à fait dans ce mouvement de transition de système qu'on peut encore aussi observer dans d'autres pays de l'Est. Et on a aussi ces tendances populistes et aussi ce manque de repères qu'on se retrouve, si vous regardez la Pologne ou l'Hongrie, à l'époque d'avant-guerre, au fait, avec les orientations, les référents, les idées sur la nation, la souveraineté, qui nous rappellent un passé qu'on croyait durablement révolu.
Mmh. Hans Stark, responsable des études franco-allemandes à l'IFRI. Il est vrai que vu de France, on oublie toujours d'abord que l'Allemagne est un pays fédéral et que cette mémoire de l'intégration reste vivace et s'exprime aussi dans ces contradictions allemandes par rapport aux réfugiés. Parce que Angela Merkel, elle-même venue de l'Est, a rappelé dans ce moment d'émotion qui a surpris tout le monde parce qu'on ne la connaissait pas ainsi, elle a rappelé en fait que l'Allemagne a cette mémoire de réfugiés.
Alors l'intégration d'autres réfugiés venant à d'autres moments, oui, l'Allemagne a toujours accueilli des réfugiés, d'abord allemands après la Deuxième Guerre mondiale, quelques 12 millions venant des territoires orientaux, même à l'est de la future RDA, et avec ceux qui sont venus de la RDA entre 1949 et 1961, on arrive presque à 18-20 millions qui se sont installés en RFA, qui elle est passée de 40 millions à 60 millions. Mais bon, ils parlaient allemand, ils sont allemands, il n'y a pas de...
Les mêmes religions.
Ils étaient jeunes, ils participaient largement au miracle économique allemand, il y avait un esprit de reconstruction. Par la suite, les Allemands avaient accueilli des réfugiés dans les années 70, des boat people, dans les années 80, les Afghans, au moment de l'occupation soviétique, dans les années 90, des Bosniaques et des Kosovars. Donc il y a toujours eu une volonté d'accueillir des réfugiés, mais en même temps, ils ont aussi, à partir de 1992 et 1992, 1993, fermé leur politique d'asile et avec les accords de Dublin, ils se sont un peu reposés quand même sur les pays tampons que sont l'Italie et la Grèce, qui sont en première ligne pour l'accueil des réfugiés. Enfin, le sud européen, même l'Espagne. Donc l'Allemagne était dans une situation très confortable à partir de 92-93. Ça, c'est fini maintenant. C'est pas comparable. Le nombre de personnes qu'on a accueillies dans les années 70 à 80 avec la situation d'aujourd'hui. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette alternative pour l'Allemagne,
ce parti AfD,
n'est pas à classer parmi les populistes traditionnels qu'on voit maintenant émerger en Pologne, en Hongrie et même en Autriche. C'est un parti qui se radicalise, et même en France, c'est bien sûr en France, c'est un parti qui se radicalise alors que le Front National, si j'ose dire, se républicanise un tout petit peu, en tout cas au niveau de son discours politique. L'AfD, me semble-t-il, se tourne le dos au système démocratique et républicain allemand et s'appuie beaucoup sur un deuxième parti d'extrême droite qui est le NPD en Allemagne, qui joue un rôle marginal à l'ouest, mais qui est assez présent, notamment sur le plan sociétal, dans les Länder de l'Est et qui a d'ailleurs une représentation parlementaire dans le pays
de
l'Ordre
de Saxe. Et avec
un
dirigeant qui était en prison, qui a dû démissionner, et puis une femme en particulier... qui tient un discours alors carrément raciste.
C'est un discours raciste et au niveau du NPD, c'est au-delà du racisme, c'est du néo-national-socialisme. C'est-à-dire, il s'inspire
du
ouvertement du néo-nazisme dans le sens vraiment profond du terme. Et les liens sont de plus en plus évidents entre l'AfD d'un côté, le NPD de l'autre, et puis par le biais aussi de Pegida, dont on n'a pas encore parlé ici, qui est un mouvement lui aussi sociétal. Bon, ça fait quand même
alors,
beaucoup.
Alors Pegida, ce sont ces enfin, c'est le mouvement organisé qui utilise la violence physique, qui met feu à certains centres d'accueil des réfugiés.
Physique et verbale. À la fois en rejetant l'islam, en rejetant l'Union européenne, en rejetant l'alliance avec les États-Unis, en prenant un rapprochement avec une Russie qui défend des valeurs de lutte contre l'homosexualité, contre la tolérance religieuse ou que sais-je, et donc qui prône un système politique qui me fait froid dans le dos, à vrai dire, et qui finalement aussi rappelle le fait que l'ancienne RDA était quand même un allié de l'URSS. Donc là, il y a des phénomènes qui se répètent.
Mais est-ce que cela veut dire au niveau de la République fédérale que le modèle politique a créé de la désillusion? C'est ce que nous expliquait il y a un instant Stéphane Seidendorf. C'est qu'au fond, ce système de grande coalition, de consensus, qui paraît, surtout vu de France, un espèce de miracle politique permanent par rapport à ce que l'on vit en France, qu'au fond, les gens se disent, est-ce que Berlin est capable de gérer, ce qui est quand même un terme très très important dans la culture allemande, est-ce que Berlin est capable de, donc Madame Merkel, est capable de gérer la situation aujourd'hui avec plus d'un million, il faut le rappeler, plus d'un million de réfugiés accueillis en un an.
Alors son slogan c'est « Wir schaffen das », on va y arriver, et beaucoup disent « Ah non, on ne va pas y arriver », d'autant que l'Autriche dit aujourd'hui, le chancelier autrichien dit « On ne va pas y arriver », elle a le ministre-président de la Bavière.
Oui, et que ce soit un Autrichien qui ose défier la chancelière allemande, c'est
avec
assez rare.
Avec son petit colissier bavarois, M. Seehofer, qui lui aussi tire dans les jambes, alors que c'est la même coalition entre le chrétien démocrate CDU-CSU, donc elle est en effet à l'intérieur même de son propre parti. Très contestée et au-delà des frontières allemandes, bien entendu aussi. Ce que disait Claire tout à l'heure, Claire de Mesmer, c'est ça ce qui est vraiment, c'est la situation. L'Allemagne est clivée. Donc vous avez d'un côté l'Allemagne qui sourit aux réfugiés, qui fait la politique de la culture du welcome et qui profite de la situation économique. Et vous avez une autre Allemagne qui est beaucoup plus déclassée, comme disait M. Seidendorf. À peu près un quart de la population active aujourd'hui vivote, se trouve dans une situation salariale précaire pour l'ensemble de l'Allemagne. Et à l'Est, c'est encore beaucoup plus important, ça touche un tiers, voire presque 40% de la population active. Et ces gens-là se détournent aujourd'hui de la gauche et se tournent vers le populisme de droite, voire vers l'extrême droite.
Daniela Schwarzer, revenons à la politique, ou plutôt à la tactique d'Angela Merkel. On l'a vu à l'œuvre à Bruxelles dimanche dernier. finalement, négligeant l'accord laborieusement élaboré par le président du Conseil européen, Donald Tusk, pour parvenir à un espèce d'arrangement avec la Turquie, pour que la Turquie serve davantage à la fois de sas par rapport aux flux de réfugiés et aussi absorbe à nouveau des réfugiés qui sont bloqués en Grèce et ailleurs dans les Balkans et même en Allemagne. Donc, comment expliquez-vous ce changement de pied quand Madame Merkel rencontre le Premier ministre turc en tête-à-tête dans un hôtel à Bruxelles et en fait essaye de mettre sur pied un accord entre Berlin et Ankara sans se préoccuper davantage des autres Européens?
À mon avis, cette démarche démontre la pression qu'elle ressent. Et vous avez évoqué le thème principal en Allemagne aujourd'hui, c'est la question si on est en train de perdre le contrôle de la situation. Donc, à mon avis, le gouvernement et surtout Madame Merkel, elle a deux objectifs pour l'Europe. Le premier objectif aujourd'hui, c'est de limiter les flux migratoires. Et là, il n'y a pas, franchement, un grand décalage entre les pays qui ont décidé de fermer leurs frontières nationaux et l'Allemagne. Mais en fait, le deuxième objectif les oppose, c'est de garder l'Europe en fait au sein des frontières extérieures ouvertes. Donc, elle a lutté pendant longtemps pour l'accord de Schengen, donc garder toutes les frontières ouvertes en Europe et donc limiter les flux migratoires grâce à un contrôle accru et un accord avec la Turquie pour contrôler les frontières extérieures. Et à mon avis, cette démarche qu'on a vue dimanche dernier et pendant cette semaine, ça démontre qu'il n'y avait pas assez de progrès à l'échelle européenne. Il y a certes les élections demain qui pèse beaucoup sur le gouvernement. Et donc, elle a probablement senti qu'il fallait qu'elle avance et qu'elle essaye de trouver un accord. Je pense l'accord en soi n'est pas dans le désintérêt européen, mais on peut critiquer l'Allemagne, comme ça a été le cas à plusieurs reprises dans le passé récent, de faire un peu cavalier seul et de créer des fêtes et après de présenter cette solution aux Européens. Et donc, à mon avis, l'heure aujourd'hui est plutôt pour la construction du consensus en Europe, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les pays, dans l'opinion publique, etc. Et donc, à mon avis, la tâche est très très importante de réunir les Européens autour de cette politique.
Claire de Mesmet, le paradoxe, évidemment, c'est que les chiffres, enfin les flux de réfugiés atteignant l'Allemagne, diminuent. Puisque, pour aller vite, la route des Balkans est bloquée un peu partout. Mais en fait, Madame Merkel, dans tous les meetings qu'elle a tenus pour préparer ses élections locales de demain, n'a pas utilisé cet argument.
Oui, c'est vrai. Je crois que dans l'analyse de Merkel, il y a quelque chose de fondamental qu'on a peut-être du mal à percevoir à l'extérieur du pays. C'est que la situation avec la crise des réfugiés n'est pas complètement maîtrisable. Son analyse, c'est que nous sommes face à un phénomène qui nous dépasse. On peut l'accompagner, on peut le gérer, mais on ne peut pas le stopper en tant que tel. Donc l'idée, c'est que si on ferme la route des Balkans, le problème réapparaîtra d'une autre manière, ailleurs. Et on le voit aujourd'hui avec la Grèce, avec le camp de Idoménie qui représente l'entrée dans une nouvelle phase de la crise des réfugiés. Donc, son analyse...
Le camp d'Idoménie, donc en Grèce, à la frontière avec la Macédoine.
Oui, voilà. Là où, aujourd'hui, d'où nous viennent des images catastrophiques de réfugiés qui sont plus ou moins bien accueillis dans des situations, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et face à ces images, contrairement à ce qui s'est passé en été avec les images de réfugiés en Hongrie, on a un changement de rhétorique de la part de la chancelière qui ne dit plus cette situation n'est pas acceptable sur le plan humain, sur le plan humanitaire, nous accueillons ces réfugiés, mais son discours est tout autre, il est de dire, eh bien, il y a ce camp qui est fait pour ça, pour accueillir des réfugiés, eh bien, il faut que les réfugiés restent dans ces camps et ensuite nous trouverons une solution.
Mais donc ça veut dire que Madame Merkel, qui nous avait habitués à une approche très scientifique, très pragmatique des problèmes, sa formation de physicienne. Ça veut dire qu'en fait, elle a mal apprécié à la fois l'ampleur de l'appel d'air créé quand elle a dit « Venez, l'Allemagne vous accueille », et aussi une erreur d'évaluation, en quelque sorte, de l'ascendant qu'elle pouvait exercer vis-à-vis de ses partenaires au sein de l'Union européenne.
Oui, je pense qu'elle a mal évalué, en effet, la réaction de ses partenaires européens en été lorsqu'elle a décidé d'accueillir des réfugiés. Je pense qu'elle avait l'espoir que, notamment grâce au leadership de l'Allemagne qui s'est développé au cours des dernières années, elle aurait la capacité à convaincre ses partenaires européens que les réfugiés devaient être répartis dans l'ensemble de l'Union européenne. Ça n'a pas été le cas. Ce qui l'oblige aujourd'hui, parce que oui, vous avez raison, c'est une femme politique qui est pragmatique, ça l'oblige aujourd'hui à revoir son discours. C'est lié à différentes choses. C'est lié, bon, évidemment, aux élections régionales de dimanche, avec une pression énorme au sein de son parti, avec une pression très forte dont on a parlé plusieurs fois à la droite de son parti, avec l'AFD, avec Pegida, etc. Ça s'explique aussi par une fatigue au sein de la population. Depuis les violences de Cologne, l'optimisme de la population allemande en a pris un coup. Et il y a aussi la fatigue de tous ceux qui ont accueilli, tous ceux qui ont permis cette politique. Si aujourd'hui, ces bénévoles, ces volontaires ne sont plus là, eh bien, il est impossible de mener cette politique. Et puis, il y a aussi, c'est le troisième élément, cet isolement très, très fort, ce sentiment de solitude au niveau européen.
C'est-à-dire, pour parler clair, la disparition du partenaire français.
Alors pas seulement. La disparition du partenaire français, c'est un élément important. Il y a eu des rencontres entre François Hollande et Angela Merkel qui n'ont débouché sur rien, avec une image relativement harmonieuse de la rencontre. On n'a pas parlé de choses qui fâchent, mais en même temps, on n'a pas réussi à trouver des solutions. Je pense que ça aurait été mieux de parler d'ailleurs des choses qui fâchent pour arriver à trouver un compromis qui soit tenable.
Oui, il est tout à fait significatif d'ailleurs. La dernière fois que Mme Merkel a été reçue à l'Élysée, enfin elle est venue donc à Paris pour discuter avec François Hollande, c'était avant le dernier sommet européen sur la question des réfugiés. Et alors apparemment sur le site de l'Élysée, il n'a même pas été fait mention de la déclaration de Mme Merkel. Donc c'est dire à quel point les positions étaient divergentes.
Oui, on a, je crois, une lecture très différente de la crise aujourd'hui. On voit très bien que pour l'Allemagne, tout tourne autour de l'accueil des réfugiés. En effet, 1 million de personnes dans le pays, ça fait beaucoup de monde et ça représente énormément de défis. Pour la France, notamment depuis novembre, depuis les attentats de Paris, la situation, le principal danger, c'est le terrorisme. Donc, ces événements en interne font que les deux pays ou les dirigeants des deux pays portent un regard différent, notamment sur la crise syrienne et sur les modes d'action, sur le rôle de l'État, sur le rôle de l'Union européenne. Donc on a une lecture très différente, une lecture géopolitique très différente de cette crise-là, qui fait qu'il est extrêmement difficile de s'entendre et de trouver un langage commun.
Hans Stark, évidemment, on se souvient de la déclaration de Manuel Valls lors de la conférence de sécurité à Munich. Donc ça, c'était le mois dernier, quand il a dit de façon, il faut bien dire, un peu dédaigneuse vis-à-vis de la chancelière, et je crois que ça a beaucoup choqué. Voilà. Et qu'en gros, non seulement elle avait eu tort, mais qu'elle avait encore tort. Donc, de cette déclaration-là faite, en plus, sur le sol allemand, ça a été mal pris. Mais jusqu'à quel point est-ce que la déception est réciproque ? C'est-à-dire, d'un côté, on voit bien que Mme Merkel considère que, quelle que soit l'image traditionnelle employée, il n'y a plus de moteur franco-allemand, il n'y a plus d'axe franco-allemand, il n'y a plus de tandem franco-allemand. Mais aussi, à Paris, on considère que Mme Merkel fait trop souvent cavalier seul.
Oui, mais Angela Merkel a souvent fait cavalier seul ensemble avec la France. Donc c'est un tandem qui fait cavalier seul. C'est un binôme, un tout petit peu, même si c'est parfois pour la galerie, je veux bien l'admettre. Alors évidemment, les Allemands savent que la France est dans une situation très différente, avec un taux de chômage qui n'a rien à voir avec celui de l'Allemagne, avec un Front National après les élections régionales qui pousse, et avec évidemment ce que disait Claire de Mesmer à l'instant, la donnée du terrorisme. Ceci étant dit, la crise des réfugiés est la plus grave crise que la RFA traverse, la République fédérale traverse, depuis sa création en 1949. Et on aurait, malgré les circonstances particulières dans lesquelles se trouve la France, aimé avoir de Paris un soutien ne serait-ce que moral et politique beaucoup plus fort, et non pas une position qui finalement est proche de celle de Varsovie et de Budapest.
À ce point-là. Enfin, autrement dit, la perception est véritablement et que là, celle vraiment, d'un abandon.
C'est un abandon.
Oui. Mais alors, encore une fois, si la perception de Paris, et on l'avait évidemment vérifié tout au long de la crise de l'euro et de la crise grecque, c'est qu'il y a une certaine arrogance allemande à imposer l'austérité comme le seul dogme possible.
Ah, ça peut être un retour, un retour chariot, hein, évidemment. C'est-à-dire, on fait comprendre à l'Allemagne, même si on a essayé de cacher un peu par le binôme franco-allemand une domination allemande de fait, on a voulu cacher ça, mais on a compris que je pense que cette fois-ci, l'Allemagne se trouve isolée et que c'est peut-être une bonne leçon pour elle d'admettre qu'elle ne peut pas agir toujours toute seule.
C'est d'ailleurs ce que dit Martin Schulz, hein, le président du Parlement européen. Il dit en fait qu'il y a un effet boomerang, oui, de ce qu'a été l'arrogance allemande tout au long de la crise de l'euro.
Exactement. Et ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque un lien germano-grec, puisque Varoufakis a dit très récemment que la seule personne qui avait sauvé l'honneur de l'Europe, c'était Angela Merkel. C'était dans le contexte où l'Autriche, l'ancien allié allemand avec les pays du Visegrad, disait que la route des Balkans s'est maintenant fermée et la frontière également. C'était justement au moment du sommet entre l'Union européenne et la Turquie. Et Angela Merkel a essayé de résister à la fin fermeture de cette frontière et enlever aussi cette motion de l'accord qui avait clôturé ce sommet.
Et on a vu d'ailleurs Angela Merkel et le Premier ministre grec Tsipras, qui ont manifestement en dépit du fossé politique qui les sépare, mais qui ont manifestement une relation entre eux. Et on a vu Angela Merkel, au cours des dernières semaines, dire, ce qui est d'ailleurs un fait, on ne peut pas laisser la Grèce face à cet afflux de réfugiés et de migrants.
Donc voilà, tout bouge.
Tout bouge, tout bouge. Claire de Mesmer à Berlin, je rappelle que vous êtes responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère. Il y a un autre aspect qui est intéressant quand on essaye de comprendre la différence de perception entre la France et l'Allemagne sur ce problème immense des réfugiés qui est en train de faire craquer l'Union européenne sur toutes ses coutures, c'est le regard sur l'intégration. Expliquez-nous cela.
Oui, c'est vrai que la France et l'Allemagne ont des politiques différentes de l'intégration ou des perceptions, même des cultures de l'intégration qui sont différentes. Pour l'Allemagne, c'est un sujet qui est relativement récent, puisque ça a été mis en place dans les années 2000 sous le gouvernement rouge-vert de Gerhard Schröder, où auparavant on ne parlait pas d'intégration, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle conscience que l'intégration est nécessaire, mais qu'elle passe d'abord et avant tout par le marché de l'emploi. Une personne bien intégrée, c'est une personne qui a un travail, tout simplement. Et tout le débat sur l'identité, sur la religion, est beaucoup moins présente dans le débat allemand qu'en France. Alors, ça peut changer. On voit bien que l'AFD, donc ce nouveau parti, pour l'instant pas encore représenté dans les parlements, mais qui monte, veut mettre la question de la religion et notamment de l'islam au cœur du jeu politique. Donc, ça risque d'évoluer, ça risque de changer ce débat sur l'intégration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et on voit que, d'après plusieurs sondages, dont un récent, qu'on continue à avoir une attitude bienveillante de la population allemande vis-à-vis de l'accueil de réfugiés, mais aussi de l'accueil de migrants. Et ce qui m'a frappé dans un sondage qui est sorti cette semaine, c'est que la majorité de la population reste favorable à l'accueil de migrants économiques, mais à une condition, c'est qu'il s'agisse de personnes bien formées. En revanche, qu'il s'agisse de musulmans ou de chrétiens, ne joue aucun rôle. On n'a aucune différence dans l'appréciation de ces migrants. Ce qui compte, c'est qu'ils soient bien formés, qu'ils aient une qualification professionnelle. Donc on voit bien que ça reste, cet élément, le marché de l'emploi reste au cœur de la perception de l'immigration. Et dans un pays qui a un taux de chômage qui est extrêmement faible, évidemment, ça vient encore alimenter cette perception favorable, ou plutôt favorable, malgré, encore une fois, toutes les tensions et tous les rejets qui sont aussi là dans la discussion. Mais tout ça vient alimenter la perception plutôt favorable de l'immigration.
D'autant que on a calculé, enfin bien évidemment le gouvernement allemand s'est empressé de calculer et de diffuser les chiffres extrêmement positifs que représente le plan d'encadrement et d'intégration d'une grande quantité de réfugiés en termes de croissance économique.
Oui, il y a la question de la croissance économique, il y a la question de la démographie, puisque l'Allemagne a un véritable problème démographique. Donc des personnes qui arrivent, si elles sont bien formées, si elles s'intègrent dans le marché de l'emploi, peuvent contribuer à résoudre en partie ce problème démographique. Il y a la question aussi d'entreprises qui sont en manque de main-d'œuvre. Donc dans la perception allemande, dans le discours, donc ça c'est quelque chose qui est mis en valeur aussi par le gouvernement, l'idée de former ces réfugiés ou ces migrants pour leur permettre aussi de contribuer à la machine économique de l'Allemagne, tout simplement. Donc le discours essaie d'être positif en insistant sur différents aspects.
Éric Scholl, patron de Courrier International, notre partenaire depuis que cette émission existe. Éric, on trouve dans la presse allemande et notamment dans le grand hebdomadaire Spiegel une analyse économique intéressante, mais qui est à double face, si j'ai bien compris.
Oui, parce que la question, évidemment, de la facture budgétaire, cette question de qui va payer pour les migrants est en fait très complexe, car elle suppose de connaître d'abord le coût de leur intégration. Et sur ce point, explique le Spiegel, on est bien obligé de procéder par hypothèse. Il faut savoir, par exemple, de combien de migrants on parle. On sait que plus d'un million d'entre eux sont entrés en Allemagne l'an dernier. Mais certains, sans doute à peu près 300 000, sont déjà repartis. En tout état de cause, le nombre des nouveaux venus est très important et surtout ce flux va se poursuivre puisque, selon les estimations du gouvernement, au total, près de 3,5 millions de réfugiés vont être accueillis en Allemagne entre 2015 et 2020. Des personnes qu'il faut loger, scolariser, à qui il faut apprendre l'allemand. La facture annuelle se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Mais ce qui est rassurant, explique le Spiegel, c'est que l'Allemagne dispose, je cite, d'une économie en bonne santé, les coffres de l'État fédéral et des Länder sont pleins, le marché du travail est robuste avec de très nombreux emplois à pourvoir. Pour autant, cette conjoncture favorable ne clôt pas la question économique, loin de là. On connaît la rigueur du ministre fédéral des Finances, Wolfgang Schäuble, qui veut bien entrouvrir sa bourse, mais pas question pour lui de remettre en cause l'équilibre des finances publiques. Or, insiste le Spiegel, ce serait une erreur de considérer ces dépenses pour les réfugiés uniquement comme un coût. Il s'agit d'un investissement pour demain. Cette question de l'intégration des réfugiés, écrit le journaliste, sera l'œuvre d'au moins une génération et ce serait donc injuste de faire reposer entièrement ce fardeau financier sur les épaules des contribuables d'aujourd'hui, d'où cette proposition mise en avant par l'hebdomadaire de créer un fonds spécial pour les réfugiés qui serait alimenté par l'emprunt. Mais c'est une solution que refuse pour le moment, évidemment, d'envisager le ministre des Finances.
Alors, le même hebdomadaire est beaucoup plus pessimiste sur l'évolution des partis politiques, voire du système politique allemand.
Ben oui, comme les intervenants l'ont déjà souligné depuis le début de cette émission, la question des migrants a rebattu les cartes politiques en Allemagne, au point d'ailleurs que le reporter et le romancier Dirk Kurbjuweit du Spiegel se demande si on n'est pas en train d'assister à un changement de république, au moins dans ses formes. Je résume son analyse. Pendant longtemps, les formations SPD et la CDU ont dominé la politique allemande avec près de 80% des votes. Aujourd'hui, on assiste au contraire à un émiettement du spectre politique. Ça a commencé à gauche avec les ratages du SPD et l'émergence du parti de gauche vers 2007. Et aujourd'hui, donc, le parti populiste, l'alternative pour l'Allemagne, fait la même chose à droite. Résultat, selon le journaliste, la fragmentation du paysage politique allemand s'accélère, ce qui accroît l'instabilité du système. On verra demain si le résultat des élections lui donne raison.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
retournons à Strasbourg pour vous retrouver, Stefan Seidendorf. Je rappelle que vous dirigez les études européennes à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Retournons à ces enjeux électoraux de demain, donc dans trois Länder, deux à l'ouest, un à l'est, et à l'ouest, donc deux gros Länder riches, la Rhénanie-Palatinat, je crois que c'était à l'origine le fief d'Helmut Kohl, et le Bade-Württemberg, qui est dirigé par un écolo qui est extrêmement pro-Merkel. Alors expliquez-nous cela.
Oui, ça peut paraître un peu un paradoxe. Nous avons donc ces deux Länder traditionnellement acquis à la droite, mais un conservatisme chrétien-démocrate est plutôt structurel. Donc en Rhénanie-Palatinat, ça n'a pas empêché de voter pour la gauche quand elle mettait un candidat en avant qui avait la carrure pour sampler, pour jouer au président du peuple. Par contre, au Bade-Württemberg, la CDU, elle est restée au pouvoir pendant presque 60 ans, 58 ans d'affilée au pouvoir, donc un record plus long que Fidel Castro au Cuba, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et cette, déculottée qu'elle a reçue lors des dernières élections, elle est certes restée le parti le plus important de la région, mais elle a dû accepter un ministre-président vert avec le jeu des coalitions, il y avait une majorité à gauche pour un gouvernement dirigé par un vert. Pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, un vert prend la tête d'une région.
Mais paradoxalement, ce vert-là, si j'ose dire, est son meilleur soutien sur la question des réfugiés.
Alors voilà comment il y est arrivé. Évidemment, il n'a pas pu changer la population. Il reste toujours aussi conservateur, aussi liés par des convictions aussi chrétiennes ou religieuses de fond, hein, qui influencent les questions des valeurs, les comportements. Donc c'est un vert très conservateur sur bien d'aspects, notamment tout ce qui touche aux valeurs, qui touche aussi...
C'est un catholique pratiquant. Hein,
Et il est dans les instances dirigeantes des laïcs catholiques de l'Église catholique en Allemagne. Donc vraiment quelqu'un de convaincu. Et en quelque sorte, il copie un peu sur Angela Merkel dans cette manière de ne pas courir d'après les dernières modes, mais de proposer des orientations, notamment dans cette question de réfugiés, de dire, là pour le coup c'est plutôt protestant que catholique, j'ai mes convictions, je ne peux pas faire autrement, ces gens je peux essayer d'encadrer le flux, le gérer, mais je ne peux pas leur fermer la porte. Et même, il est allé jusqu'au point, ça peut vous sembler un peu ridicule en France, de dire « je prie tous les soirs pour Angela Merkel pour qu'elle réussisse cette politique des réfugiés ».
Alors, quel peut être l'enjeu dans ce Land-là demain?
Alors, voilà, pour les élections demain, personne ne sait ce que ça va donner, puisqu'on sera dans une constellation inconnue jusque-là. On peut se retrouver avec 5, 6, peut-être même 7 partis au Parlement, et donc du coup la tâche de former une coalition va être très difficile. Pour la première fois, le CDU pourrait arriver derrière les Verts, et ça serait vraiment sensationnel, et pour le coup poserait aussi un problème à Angela Merkel. Et à ce moment-là, on peut penser que la seule solution vraiment pour trouver un gouvernement serait que le CDU passe le cap, qu'il vire un candidat un peu malheureux, que le chef du parti au niveau régional, qui est par ailleurs le gendre de M. Schäuble, du ministre des Finances, prenne les choses en main et propose une coalition vert-noir sous un ministre-président vert. Alors là, évidemment, pour pas mal de supporters, des anciens, de la CDU, ça c'est inconcevable.
Alors, en Rhénanie-Palatinat, c'est l'autre... allié de la grande coalition, donc le SPD, les sociaux-démocrates, qui sont menacés par une jeune femme de la CDU qui elle, paradoxalement, conteste la chancelière alors qu'elle appartient au même parti.
Oui, voilà, et c'était peut-être sans erreur par ailleurs. Elle était bien partie, elle est dynamique, elle est jeune.
Alors comment s'appelle-t-elle?
C'est Madame Klöckner, elle s'appelle. Et Madame Klöckner, elle est bien partie, elle était surtout, elle est issue du peuple et elle représente cette façon un peu conservateur des chrétiens-démocrates. Ça pourrait être une petite fille de Helmut Kohl, hein, pas physiquement, mais pour le reste, elle, était bien, elle aussi, elle est bien pratiquante.
Pas physiquement, oui, heureusement pour elle.
Elle représentait le vin allemand, c'est ce qu'on appelle une princesse du vin. Donc elle représentait les vignerons et le vin allemand du sud de l'Allemagne.
Donc ça, c'est sympathique.
Le monde. Donc, elle a vraiment ce côté proche du peuple. Et là, le parler est cru, hein, là, le contact facile. Et elle était bien partie pour une bonne compagne et pour donc virer la ministre-présidente, Madame Treyer. Ici des sociaux-démocrates. Et là, avec cette histoire de s'opposer en interne à la chancelière, mais sans vraiment s'opposer, c'était pas un plan B qu'elle proposait, mais un plan A2, A bis, et mal ficelé, on voyait pas comment ça pouvait fonctionner. Et du coup, elle est revenue en arrière, elle a dit que c'était plutôt sur un malentendu, et c'était pour ouvrir un peu le débat, mais pas vraiment pour aboutir sur quelque chose. Du coup, ils se retrouvent, les deux grandes formations, en tête à tête, et on ne peut pas dire ce que ça va donner, avec une dynamique pour la SPD qui remonte dans les sondages, mais on ne pourra pas dire actuellement, il n'y a aucun sondage, aucun institut de sondage qui peut nous dire comment ça va se passer demain.
Donc ce sont évidemment les résultats à surveiller demain. Daniela Schwarzer, directrice du programme Europe au German Marshall Fund, à Berlin. Daniela, il faut aussi rappeler que pour Madame Merkel, elle a déjà fait 3 mandats. Enfin, un premier qui était une queue de mandat et 2 mandats pleins. Les prochaines élections au niveau fédéral sont donc à l'automne 2017, dans 18 mois. Est-ce que, en fonction des résultats de demain, on peut imaginer que son prestige soit flétri à la tête de sa propre formation politique ?
Eh bien, il y a évidemment un risque parce que, on l'a entendu par l'analyste Stefan Seidendorf, on ne sait pas trop ce qui se passera demain. Il y a un fort risque que la CDU perde, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi les sociodémocrates. Donc c'est un effet pour tout le système des partis politiques en Allemagne qui on aura une plus grande fluctuation. On a déjà une radicalisation du débat et tout ça rend la chose un peu imprévisible. Pour elle, à la tête du parti, je pense l'élément clé à retenir, c'est qu'il n'y a pas de contestataire, un personnage, qui serait prête à saisir le pouvoir au sein du parti ou même.
Il n'y a pas de personnalité de rechange.
Non. Non, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de débats autour de la question. Évidemment, le nom du ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, est souvent cité, mais c'est quand même quelqu'un qui a toujours soutenu Angela Merkel, même s'il a été critique parfois de ses positions.
On a aussi parlé de la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen.
Oui, mais si on regarde un peu le soutien que les différents personnages ont dans les sondages, et si on regarde ensuite au sein du parti qui a le plus grand soutien, qui arrive à rassembler les différentes filières du parti, à mon avis, ça reste pour l'instant encore Angela Merkel. Donc à mon avis, il n'y aura pas un changement immédiat après les élections de dimanche, mais il faut voir comment toute la situation évolue, parce qu'on est quand même encore à 18 mois des élections nationales et dans les mois qui viennent, il y aura sans doute un débat sur la stratégie au sein du parti pour les élections nationales. Et donc c'est là où ça va se décider doucement. Mais à mon avis, il n'y aura pas une crise lundi matin où on verra un changement à la tête du parti ou à la chancellerie.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à gauche ? Alors du côté social-démocrate, où on a vu que Sigmar Gabriel, qui est donc le patron du parti, il a fait une campagne extrêmement timide là pour les élections de demain. Il est très contesté, mais là aussi, semble-t-il, même le ministre des Affaires étrangères, Steinmeier, qui est populaire, lui, il n'a pas très envie de reprendre le flambeau.
Oui, alors le SPD sera dans une situation, à mon avis, plus difficile lundi matin, parce que il y a déjà eu l'expérience pour le SPD lors des élections régionales dernières à Sachsen-Anhalt que le parti est rentré en troisième rond au Parlement régional, et ça peut se reproduire même peut-être dans un scénario où le AfD gagne beaucoup, beaucoup, le SPD peut être sur la quatrième place. Et donc, il y a vraiment des risques pour ce parti parce que le leadership n'est pas très fort. Lors de son réélection à la tête du parti, Gabriel n'a pas eu un très grand score. Et donc, au sein du parti, on verra un peu le même débat. Je ne prévois pas une crise immédiate, mais là, vu le score assez faible au niveau national et dans les différentes régions, avant 2007, il y aura un débat très, très important au sein du parti. Quelle sera la voie à prendre et comment est-ce que ce parti pourra se différencier de la CDU avant les élections, parce que les deux forment la grande coalition au niveau national et donc ils sont obligés de coopérer avec la CDU.
Hans Stark, revenons à la question centrale qui nous concerne tous au sein de l'Union européenne, qui est la place et le rôle de l'Allemagne. Vous avez publié il y a quelques jours un papier très intéressant dans la revue Politique étrangère qui porte en fait sur le retour de la question allemande. Et on pensait que c'était véritablement un thème qui avait disparu grâce, encore une fois, à la manière dont le projet européen K1KA avançait. Maintenant, plus personne ne peut dire ça. On a vraiment l'impression que ça, encore une fois, ça craque de partout. Alors, c'est quoi le retour de la question allemande en Europe aujourd'hui?
Alors, il y avait des questions allemandes. La première est territoriale. Pendant très longtemps, il y avait une inadéquation entre l'État allemand et la nation allemande. Donc, où s'arrêtait l'Allemagne, où s'arrêtaient ses frontières? Cette question-là existait jusqu'en 1990. Elle a été close par l'unification et par la reconnaissance définitive par l'Allemagne de l'Oder-Neisse comme frontière orientale de l'Allemagne unie. Donc, de ce point de vue-là, la question allemande n'existe plus. Alors, elle est revenue, on parle d'un retour de la question allemande parmi les experts, du fait de la prédominance de plus en plus forte de l'Allemagne au sein de l'Union européenne.
Prédominance économique?
Économique avec le modèle économique allemand, financière et monétaire avec le débat sur l'austérité, de gouvernance du fait que sur toutes les grandes questions, on trouve très souvent Angela Merkel seule en train de piloter les choses avec tantôt le président de la Commission, tantôt avec tel ou tel représentant des pays de l'Union européenne.
Ou avec la Turquie, là, on le voit.
Ou avec la Turquie, là, la semaine dernière. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure vous-même. Et donc, cela pose en effet un problème structurel dans la mesure où le projet européen, au départ, était quand même un partage des souverainetés, un partage des influences, des influences politiques. Et aujourd'hui, ce n'est plus de mise. Alors,
c'est devenu, en fait, de l'intérêt gouvernemental et pas seulement du fait de l'Allemagne, mais aussi du fait de la France, on ne parle même pas de la Grande-Bretagne. En fait, on voit que depuis quelques années, encore une fois, les États, enfin les gouvernements, ont repris la main avec, encore une fois, l'absence de solidarité et la crise des réfugiés en est la démonstration historiquement éclatante.
C'est ça, c'est-à-dire l'Union européenne à travers la crise de l'euro a clairement démontré que ce sont les États membres qui veulent piloter cette crise et donc on a mis en avant le Conseil européen et surtout de l'eurozone comme étant celui qui doit être aux manettes. On a affaibli de ce point de vue-là la Commission européenne. Qui parle encore aujourd'hui de Madame Mogherini? Qui parle encore aujourd'hui d'un
donc,
responsable?
Donc Madame Mogherini, c'est la politique extérieure qui est censée être commune.
Donc vous voyez, il faut préciser qui c'est. Ce qui veut dire que l'Union européenne n'a plus de visage en termes de politique étrangère et de sécurité. D'ailleurs, peut-être qu'elle n'existe plus.
En a-t-elle jamais eu? Madame Ashton avant.
Avec M. Solana, le premier sans doute un tout petit peu. Mais après, ça a très fortement décliné. Aujourd'hui, Donald Tusk reprend un peu le flambeau.
Président du Conseil européen. Ancien Premier ministre polonais.
Mais lorsqu'on est face à une vraie crise, on se tourne davantage vers Merkel, Hollande et peut-être Cameron, un tout petit peu.
Et puis il faut quand même mentionner Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission et qui se démène pour essayer d'exister. Mais encore une fois, ce sont les gouvernements et les États membres qui ont la main.
Voilà. Et à l'intérieur de cette structure-là, vous avez forcément celui qui est le plus grand, le plus puissant économiquement, celui qui est dans une situation de centralité géographique, celui dont le modèle à la fois économique avec l'ordolibéralisme et politique avec le modèle du consensus politique qui dépasse les bornes, les clivages politiques traditionnels, convainc le plus, et c'est le cas de la République fédérale.
Mais en même temps, on le sait, pour des raisons de mémoire historique, l'Allemagne déteste être seule au poste de pilotage. Où est-ce que ça, c'est fini ?
Par moment, lorsqu'elle peut imposer ses intérêts nationaux, je pense qu'elle va même passer par cette case-là. Mais évidemment, elle souhaiterait que ça se passe dans un cadre multilatéral, avec un soutien le plus large possible, et surtout dans un consensus, cette fois-ci non pas germano-allemand, mais européen. Mais sauf qu'on l'obtient pas toujours. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne se trouve de plus en plus seule, et la solitude aussi dresse finalement des barrières à l'influence allemande. N'a-t-on pas dit, par exemple, au niveau de l'influence de l'Allemagne en Europe centrale et orientale, on parlait de la Mitteleuropa comme étant un hinterland allemand. Aujourd'hui, malgré tous les efforts de solidarité dont les Allemands ont fait preuve vis-à-vis des Polonais, des Tchèques, des Hongrois et des Slovaques, ce sont ces derniers qui se détournent manifestement de l'Allemagne sur le plan de la géopolitique, de la crise de leurs réfugiés, mais sur le plan politique aussi, sur la façon avec laquelle on fait la politique aujourd'hui à Varsovie. Tout ça est totalement contraire
au modèle allemand.
Avec une dénonciation, et puis finalement, j'irai même plus loin encore en pensant que parfois, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Slovaquie, ces pays-là me rappellent davantage la gouvernance à la russe que la gouvernance allemande. Donc, quel échec !
Quel échec pour l'Europe, quel échec pour tous les partenaires de l'Union européenne, quel échec pour le moteur franco-allemand que l'on a célébré à juste titre pendant si longtemps et qui est manifestement en panne. Merci à vous tous, merci à vous Hans Stark, donc professeur à la Sorbonne, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Vous avez dirigé un ouvrage sur les changements de l'Allemagne, risques et défis d'une mutation aux presses universitaires du Septentrion. Et puis je rappelle ce papier auquel je faisais allusion dans la revue Politique étrangère. Au téléphone depuis Berlin, merci à vous Claire Demesmer, responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère, le DGAP. À Berlin, Daniela Schwarzer, qui a fréquemment contribué à cette émission. Merci Daniela, vous dirigez le programme Europe du German Marshall Fund. Et merci à Stéphane Seidendorf depuis Strasbourg. Vous avez publié le modèle franco-allemand, les clés d'une paix perpétuelle, avec un gros point d'interrogation, au Septentrion en 2013. À la réalisation ce matin, comme tous les samedis, Luc-Jean Reynaud, à la technique Édouard Rubinstein, Meryl Moneghetti a préparé cette émission et mettra, comme d'habitude, toute la bibliographie nécessaire sur notre site. Merci à Eric Scholl, notre partenaire. Dans quelques instants, comme tous les samedis, Dominique Rousset pour l'économie en question. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, bien évidemment. Nous serons en direct au Salon du Livre à Paris. Très bon week-end à tous.